On dit en 1998 à Dakar, justement, quand ils se sont réunis pour faire le constat de, pour savoir s'ils allaient ratifier ou pas et rejoindre la Cour pénale internationale. Ils se sont dit le continent a été ravagé par les guerres, le génocide au Rwanda, les guerres en Sierra Leone, au Liberia, etc. Il y a dans nos États des gens qui sont inamovibles. À l'époque, Charles Taylor était encore président, par exemple. Donc dans ces situations, on a besoin d'une cour supranationale, internationale, qui viendrait aider les États africains un peu à faire le ménage pour les plus grands criminels. Mais avant tout, si la justice nationale peut faire le travail, c'est à elle de faire le travail, et la Cour pénale internationale ne viendrait que en deuxième rideau, qu'en dernier recours, si jamais faire justice sur le continent africain n'est pas possible par la justice nationale.
Alors justement, on parle de faire justice sur le continent africain. Marcel Mandy, l'actualité aujourd'hui, c'est ce procès de Laurent Gbagbo à la CPI, justement. Vous qui êtes à aux chambres africaines extraordinaires à Dakar, est-ce que ce procès Gbagbo qui aujourd'hui a lieu à la CPI aurait pu avoir lieu à Dakar? Monsieur Mandy? Ah, nous avons quelques difficultés à joindre Marcel Mandy. On va essayer de revenir vers lui tout à l'heure. René Lecq, la même question. Aujourd'hui, voilà, à La Haye, Laurent Gbagbo, ça fait polémique, hein, Laurent Gbagbo attend de savoir si sa détention provisoire va prendre fin. Est-ce qu'on aurait pu avoir un tel procès à Dakar?
Je crois que c'est une très bonne question. J'aurais du mal à répondre de manière définitive, mais on peut se dire qu'il y a eu quand même un précédent. Ça a été le procès d'Hissène Habré qui s'est tenu justement à Dakar. Donc je crois que c'est possible dans la mesure où ça ne se tient pas dans le pays en question. Parce que la grande question qui est posée par votre collègue, qui était posée par votre collègue tout à l'heure, c'était qu'au fond, c'est l'incapacité du système judiciaire national à régler ce type de questions-là qui amène à faire appel à une cour internationale. Mais parce qu'en général, les conflits en Afrique sont en particulier des conflits internes. Vous n'avez que très peu de cas où vous avez des conflits internationaux entre d'un État à l'autre. Donc comme ce sont des conflits internes, il est très difficile de pouvoir juger que la justice nationale puisse prendre en charge de tels cas. Sinon, si elle le fait, ça ressemble à une justice des vainqueurs, et c'est là l'un des gros problèmes.
Alors justement, Florent Gel, je ne sais pas si on a retrouvé d'abord Marcel Mandy. Marcel Mandy, est-ce que vous m'entendez? Ah, nous n'avons pas encore récupéré la ligne avec Dakar. Florent Gel, on parlait de cette justice des vainqueurs qui est possible justement quand on juge sur le plan, quand l'État en lui-même prend en charge un procès. On va prendre l'illustration du cas de Simone Gbagbo pour le coup. Ça a été perçu par certains comme justement une justice des vainqueurs. Est-ce que là, dans ce cas précis, c'est vraiment à l'État en question de prendre ce genre de procès en charge?
Théoriquement, ça devrait être, enfin, ça pourrait être à l'État de prendre ce procès en charge, parce que la justice de vainqueur peut être un risque, mais ce n'est pas non plus une obligation. Et puis, je peux vous en parler, puisque la FIDH, mon organisation, accompagne les victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, et on a refusé d'aller au procès Gbagbo pour la bonne et simple raison que les conditions n'étaient pas réunies pour tenir ce procès. Mais
au procès
ce n'est pas
Simone
une règle
Gbagbo,
intangible. Absolument.
Ouais.
Mais ce n'est pas une règle intangible. C'est-à-dire que nous avons la certitude, enfin la conviction justement, que la justice ivoirienne aurait tout à fait les capacités de tenir un procès juste et impartial de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, auquel on pourrait participer d'ailleurs. Mais il faudrait aussi tenir les procès des FRCI, donc les hommes en armes qui ont soutenu la prise de pouvoir par Alassane Ouattara pour équilibrer les actions judiciaires. Mais a priori, ça serait possible. Par contre, on a vu que les conditions dans lesquelles se sont déroulés le procès de Simone Gbagbo n'était pas impartial. C'est avant tout pour nous une question de volonté politique. et de conception en fait de la justice. Beaucoup plus de pays africains devraient faire comme le Sénégal, accepter de rendre une justice impartiale sur le territoire et les sols africains. Il existe l'ensemble des dispositions juridiques pour le faire.
Alors on reviendra, si vous permettez Florent, on reviendra un petit peu là-dessus, sur les dispositions justement qui existent aujourd'hui. J'aimerais qu'on reste un peu plus sur la CPI. René Lec, c'est une cour qui est décriée par certains, qui est montrée du doigt justement parce qu'il y aurait trop de manœuvres politiques plutôt que d'essayer de rendre une justice équitable, impartiale. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui crée justement cette polémique autour de la CPI dans les pays?
Je sais que la polémique, elle est entretenue en particulier par certains leaders d'opinion, notamment africains, en Afrique ou basés en Occident. Ils reprochent un peu à la CPI de s'intéresser essentiellement aux criminels africains, entre guillemets. Mais c'est une question que moi je trouve assez délicate, parce qu'au fond, il se trouve que justement la plupart des conflits internes, la plupart des criminels contre leur propre peuple, la majorité se trouve en Afrique. Donc il me paraît tout à fait logique et tout à fait normal que ce soit principalement ceux-là qui se retrouvent devant la CPI. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme le disait votre collègue tout à l'heure, il se trouve que les justices nationales n'ont pas la capacité ou n'ont pas les moyens, ne serait-ce que politiques, d'une indépendance qui leur permettrait de garantir des procès équitables. Donc je crois que personnellement, en ce qui me concerne, je crois que cela est tout à fait justifié. Et je pense que la CPI joue un rôle extrêmement important.
Alors, on me dit qu'on a retrouvé M. Mendy. Marcel Mendy, vous êtes en direct de Dakar. Est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Alors, on va revenir dans le débat. On parlait justement de l'exemple qu'a été celui du procès Abré par les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Quelles leçons tirées de cette première expérience? Est-ce que ça peut être réitéré?
Bon, moi je pense que l'expérience de Dakar est assez révélatrice de la capacité des Africains à assumer leurs responsabilités devant l'histoire quant à l'appréciation et à la poursuite des crimes de masse tels qu'on les connaît un peu partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en République centrafricaine ou ailleurs dans le monde. À mon avis, l'Afrique a démontré à suffisance sa pleine capacité à traiter justement de ce crime de masse. Voilà pourquoi j'estime que le président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire aurait pu effectivement être jugé en Afrique.
Alors justement, vous pensez que c'était un choix politique de la part du pouvoir ivoirien qu'il soit envoyé à la CPI plutôt que, par exemple, une demande auprès de Dakar?
Bon, comme les chambres africaines ont été payées par l'Union africaine en accord avec le gouvernement du Sénégal, il était parfaitement possible que le gouvernement ivoirien entre en contact avec l'Union africaine, faire la même démarche pour envisager justement la création d'une juridiction ad hoc qui aurait pour mission de juger ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise ivoirienne.
Alors, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de VOA Afrique comme chaque semaine. Et nous avons Diara Kanoumé au Mali qui nous dit « La CPI est bonne pour juger nos dirigeants africains parce que la justice nationale ne peut pas juger les chefs d'État en Afrique à cause de la corruption. » Un autre nous dit, Désiré Pagna en RDC, qui nous dit « On ne parle jamais de la justice car cet organe travaille pour le chef de l'État et sa famille politique, ce qui fait que l'impunité est au top dans mon pays. Les prisons sont remplies par les opposants et les pauvres, ceux qui n'ont pas de famille dans le gouvernement. » Alors, Florent Gel, une réaction à ces commentaires Facebook? On nous parle de corruption, on nous parle du pouvoir qui a la main justement sur la justice.
Oui, oui, c'est un constat qu'on fait tous. En travaillant au contact de la justice et sur les crimes les plus graves, c'est un vrai combat que d'arriver à mettre sur le devant de la scène et sur la table des priorités gouvernementales la répression par la justice des crimes les plus graves. Je prends le cas de la Guinée, massacre du 28 septembre. Ça fait 7 ans que l'instruction est en cours. On n'est pas loin d'un procès, mais il faut encore donner un coup de rein pour que le procès soit organisé. Au Mali, le procès de l'ancien putschiste Yassane Ogo, pareil, on a commencé, mais il y a encore des pesanteurs politiques. Il y a quand même de très très lourdes pesanteurs. Même le procès Hissène Habré, je suis désolé, mais il a fallu quand même 19 ans pour que ce procès ait lieu. Des milliers de victimes sont décédées depuis lors. Donc je veux bien qu'il y ait des espoirs de justice. Mais c'est très long et c'est compliqué. Après, il y a d'autres, espoirs, on y reviendra.
Je suis obligée de vous couper, mais on reviendra sur les institutions et sur les moyens de pouvoir rendre justice juste après cette courte pause.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis,
tout ce qui nous passionne et dont on rapproche.
Racontez-nous vos histoires
et nous vous raconterons les vôtres.
Vie africaine,
vie américaine.
Vous et nous, ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie,
vous et nous, ensemble.
De retour dans ce Washington Forum consacré cette semaine à l'état des lieux de la justice sur le continent africain. À quoi ressemble la justice dans vos États? Quelle est la situation dans les régions les plus reculées? Quel équilibre avec la justice traditionnelle? On revient dans notre débat avec d'autres commentaires Facebook, notamment celui de Christian Djerabé au Burkina Faso qui nous dit « La justice n'est pas indépendante dans un État où les principes de la démocratie sont bafoués et où le régime en place est le seul à prendre des décisions. » Comment voulez-vous que cette justice soit du côté des faibles? La justice ne fait que rendre plus fort le régime. La corruption et la pauvreté ont terni l'image de la justice. Georges Ali Saniguet au Tchad nous dit « Sans la CPI, nous serions de simples chiens aux yeux des dirigeants et nos vies n'auraient pas de valeur. Sans la CPI, la porte au carnage en Afrique serait ouverte. » On revient dans notre débat avec vous, Marcel Mendy. Vous êtes toujours à Dakar. Marcel Mendy, est-ce que vous m'entendez? Marcel Mendy. Alors, nous avons encore perdu la ligne avec Dakar. René Lake, Florent Gel parlait tout à l'heure des institutions, de la lenteur de la justice, des crimes moins graves ou du moins qui ne sont pas jugés par la CPI mais qui méritent quand même un procès, des enquêtes. Il a cité l'exemple de la Guinée, il y a d'autres exemples. Quelles sont les structures aujourd'hui qui existent pour rendre justice aux citoyens ivoiriens, sénégalais, camerounais? Qu'est-ce qui existe?
En fait, c'est la grande difficulté. Regardez, quand on parlait tout à l'heure éventuellement d'un procès Gbagbo au Sénégal, c'est parce qu'au fond, on est dans un pays...
Il avait l'air assez confiant d'ailleurs, M. Mendy.
Oui, tout à fait. Mais c'est dans un pays, parce qu'on parle d'un pays autre que le pays national. Et le Sénégal a été capable de rendre une justice relativement acclamée, je dirais, positivement par la communauté internationale dans le cas de Hissène Habré. Mais si vous allez au Sénégal et que vous dites aux Sénégalais que la justice sénégalaise est autonome, indépendante et équitable, je crois que vous aurez les trois quarts, pour ne pas dire 90% des gens, qui vous riraient au nez. Parce que la justice sénégalaise, quand il s'agit des Sénégalais en situation nationale, n'a pas une réputation d'une justice équitable et indépendante.
Mais c'est là le gros problème. Il y a un vrai système quand même mis en place au Sénégal.
Le système est en place, il marche plus ou moins bien. Dans certaines situations, il marche même très bien. Mais la question de l'indépendance politique du système judiciaire se pose et la question de la corruption. Vous savez, les systèmes judiciaires en Afrique, y compris dans un pays comme le Sénégal, qui est certainement l'un des pays les plus avancés, est quand même pas mal malmené d'un point de vue de la perception. À CNEPlus.com, on a fait plusieurs sondages sur la perception de la justice au Sénégal. Je peux vous dire que c'est l'une des institutions qui est considérée par les Sénégalais comme l'une des plus corrompues.
Alors, Florent Gel, vous qui êtes aussi confronté aux citoyens des différents pays dans lesquels la FIDH intervient, est-ce qu'il y a aussi ce désarroi de la part des populations face à le système d'une justice civile qui n'est pas forcément à la hauteur ou trop lente ou trop lourde?
Oui, oui, manifestement, pour vous donner un exemple simple, on soutient pas mal de cliniques juridiques, notamment en Afrique, et pour un pagne, pour le vol d'un pagne, vous pouvez prendre 2 ans de prison, ce qui est complètement démesuré, inadmissible, ce qui remplit les prisons. Si vous payez, vous avez une libération beaucoup plus rapide, etc., etc. Vous pouvez même payer pour emprisonner un de vos frères, pour prendre un héritage, les conflits fonciers. Donc effectivement, c'est une institution qui est extrêmement décriée. L'indépendance de la justice est un véritable combat, mais je le dirais, attention, pas simplement en Afrique, hein. Dans certains pays européens également, pour ne pas citer la France par exemple. Donc il y a de vrais enjeux sur l'indépendance de la justice et la justice au quotidien. La situation s'aggrave évidemment dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a des événements politiques majeurs. Mais la justice au quotidien en Afrique est extrêmement difficile et c'est la raison pour laquelle des alternatives, enfin, les gens se tournent vers des alternatives qui sont souvent la justice traditionnelle, voire carrément la justice populaire, c'est-à-dire la justice directe, qui comporte dans ces deux alternatives des conséquences plus ou moins radicales et plus ou moins heureuses.
Marcel Mendy, au Sénégal, vous avez aussi travaillé pour le ministère de la Justice au Sénégal. On parlait de cette justice au quotidien. René Lec nous disait qu'elle n'est pas forcément très bien perçue par les citoyens sénégalais. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui quand il y a un contentieux, un délit mineur? Est-ce que tout le monde a accès à un avocat? Est-ce que tout le monde peut se défendre aujourd'hui au Sénégal, ou est-ce qu'il faut passer par des associations, la justice populaire?
Bon, comme vous le savez, en matière de justice, on ne fait jamais l'unanimité. Tout dépend du camp auquel on appartient. Tant que la justice nous donne raison, elle est bonne, elle est efficace. A contrario, quand elle nous condamne, évidemment, elle a tous les péchés du monde. C'est pour ça qu'il faut être assez nuancé dans l'appréciation de la justice en tant que service public. Alors, pour revenir au cas spécifique du Sénégal, moi je pense qu'on ne peut pas faire un jugement lapidaire ou catégorique, hein. Il faut apprécier au cas par cas. Alors, je sais, pour avoir été conseiller technique du ministère de la Justice, que le système fonctionne à peu près normalement, voyez, sur le plan civil. Autrement dit, quand il s'agit d'un conflit qui oppose deux citoyens, eh bien, ils ont un égal accès au service de la justice. Autrement dit, ils sont traités sur un même pied d'égalité. Alors, ils ont recours aux avocats, selon qu'ils ont les moyens ou pas. Ce n'est pas le cas, eh bien, la justice a mis en place un fonds d'aide. Hein. C'est une espèce de subvention qui est mise à la disposition de l'ordre des avocats pour effectivement aider les justiciables à faire face.
Mais Monsieur Mendy, est-ce que dans les régions les plus reculées, au fin fond de Tambacounda par exemple, est-ce que la justice peut s'exprimer? Comment est-ce que les citoyens qui sont dans des zones isolées font?
Non, je ne sais pas si vous êtes au courant, le Sénégal a réformé sa carte judiciaire, voyez, dans la perspective de rendre la justice plus accessible. Autrement dit, qu'on soit à Dakar, à Thiès ou à Tambacounda, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut parfaitement avoir accès à la justice, c'est-à-dire bénéficier du service public de la justice, sans aucune distinction.
Alors, Florent Gel, ça, c'est l'exemple du Sénégal dans un pays stable, dans un pays où il existe quand même de vraies institutions qui tiennent la route. Dans les pays en crise, comme par exemple la Centrafrique, comment ça se passe, vous qui avez été sur place?
Juste pour faire un biais sur le signal, effectivement, il y a eu quand même des réformes importantes de la justice qui ont été mises en place ces deux, trois dernières années, carte judiciaire, mais aussi ce qu'on a appelé les maisons des droits de l'homme pour rendre la justice plus près des justiciables. Donc il y a des efforts substantiels qui ont été faits, des libérations de prisonniers, des engorgements des prisons, etc. etc. En Centrafrique, par exemple, en 2013, 2014, quand il n'y avait plus de justice, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus un seul magistrat dans n'importe quelle région de la Centrafrique, il a fallu réinventer un système de justice à plusieurs niveaux, c'est-à-dire d'abord au sein de la capitale, remettre en marche la justice un peu du quotidien, ce qu'on appelle la justice pénale, c'est-à-dire juger rapidement ceux qui avaient pillé des maisons, etc. Mais pour juger les crimes les plus graves, puisque comme vous le savez, en Centrafrique, des crimes atroces ont été commis, plus de 3000 personnes ont été victimes d'exactions de tous les camps d'ailleurs, il y a un mécanisme qui a été créé avec des juges centrafricains et des juges internationaux qui s'appelle la Cour pénale spéciale, auquel la FIDH a eu la chance de pouvoir collaborer, non pas comme une expérience de justice internationale qui serait déconnectée du terrain, mais pour essayer de donner à la justice centrafricaine, au gouvernement centrafricain, le soutien de la communauté internationale pour juger les crimes les plus graves et les actions de violation grave des droits humains. Mais l'idée de cette cour, un peu à l'image des chambres africaines extraordinaires au Sénégal, c'est pas simplement de juger une seule personne, c'est de juger plusieurs personnes, et c'est surtout c'est d'être une cour nationale qui se déroule dans le pays, qui est proche des gens et sur les lieux des crimes qui ont été commis. C'est d'essayer d'éviter de faire un grand éléphant blanc qui coûte des millions d'euros ou de francs CFA et qui serait là pour juger 2, 3, 4 personnes, ce qu'on reproche souvent à la justice internationale.
Effectivement.
Donc c'est une nouvelle étape créée avec le gouvernement centrafricain, avec le soutien de la communauté internationale et de l'Union africaine. Et donc c'est en cours d'être monté, on va voir si c'est efficace. C'est
alors effectivement,
nouvelle, entre guillemets, expérience.
On verra si cette expérience-là est efficace. René Lake, on revient sur l'aspect politique, hein, dans tous les commentaires Facebook, c'est ce qui revient à chaque fois, la mainmise du pouvoir, l'indépendance de la justice. Est-ce que, selon vous, c'est la volonté politique avant tout qui peut assainir la justice, le système judiciaire, selon les pays?
Oui, je crois que les deux sont liés. Les systèmes judiciaires, leur niveau de sophistication, leur niveau d'efficacité, leur niveau d'indépendance et d'équité est directement lié, de mon point de vue, au niveau de sophistication, d'efficacité du système politique lui-même. Je pense que le lien, il est direct. J'avoue que de manière générale, hein, en Afrique, à part dans les pays en crise, les mécanismes institutionnels, l'accès au système judiciaire, ça marche généralement plutôt bien. C'est un peu comme le multipartisme. Pratiquement dans tous les pays en Afrique, il y a les mécanismes politiques multipartisans existent. Il y a il y a des élections qui se tiennent. Maintenant, entre le fait d'avoir des mécanismes, comment ça se passe et comment c'est géré, il y a un monde entre les deux et le système judiciaire n'échappe pas à cette analyse.
Alors, messieurs, un dernier sujet, justement, qui dit système, enfin, qui dit justice, dit aussi sentence, dit condamnation. Rapidement, Marcel Mandy, dans quel état est le système pénitentiaire, par exemple au Sénégal?
Bon, le système pénitentiaire au Sénégal est un système comme on le retrouve dans tous les pays sous-développés, c'est-à-dire avec des prisons qui sont surpeuplées, où les détenus vivent dans des conditions vraiment difficiles. Bon, on entend chaque jour des récriminations des organisations de défense des droits de l'homme. Et les efforts du gouvernement aussi d'améliorer la vie les conditions de vie dans ces prisons-là. Mais au total, on peut constater objectivement que le système pénitentiaire sénégalais véritablement à beaucoup de beaucoup d'insuffisance.
En tout cas, merci beaucoup. Vous pourrez continuer la conversation sur la page Facebook de VOA Afrique et puis nous reviendrons évidemment sur toutes ces questions. Merci à tous nos invités. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à l'équipe technique et à TV7 à Lomé qui diffuse Washington Forum. À la semaine prochaine.
Sur FM en cours, la Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamina, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.